Et je voudrais qu'on puisse parler un peu de la confiance. Et cette confiance, ils l'ont manifestée par ce symbole fort du baptême. Les différents chants qu'on a exprimés, qu'on a chantés, ont proclamé des vérités précieuses sur l'œuvre, sur la personne de Jésus-Christ. Mais la source de ces affirmations se trouve dans la Bible. C'est la Bible qui nous parle de Jésus. Alors comme je l'ai dit, je voudrais qu'on se questionne sur la confiance. Tout est une histoire de confiance. Confiance, pas confiance. Croire ou ne pas croire. Est-ce qu'il me faut des preuves pour croire? Est-ce que c'est l'incrédulité qui prédomine? Le doute? Léa était à un moment donné de son parcours de vie empreint de doute. Est-ce que pour nous c'est difficile de faire confiance? Comment accorder sa confiance à l'autre? Alors là, vous n'avez pas besoin que je vous donne 1000 explications, 1000 illustrations pour vous expliquer la confiance vis-à-vis d'un prochain, un parent, un conjoint, un enfant, confiance en un professeur, confiance en la justice, confiance, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Faire confiance à l'autre, c'est parfois un saut dans l'inconnu, c'est un pas de foi. Est-ce que la personne dans laquelle on place sa confiance va décevoir ? Faire confiance à ce que la personne nous dit sur une situation. Alors je voudrais nous encourager à ouvrir la Bible si vous en avez ramé une. Et si vous n'en avez pas, il y en a à l'arrière. Voilà, on a à cœur aussi d'ouvrir et de regarder. Et on va prendre un épisode de la vie de Jésus. C'est au début de son ministère, il y a 2000 ans. On le retrouve dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean a été écrit par Jean. Avec cette idée de démontrer, de montrer aux gens, à ses lecteurs, que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, ils aient la vie. Jean voulait encourager à une confiance en Jésus. Et on a Jésus qui parcourt la région, et on va le voir dans le petit passage qu'on va voir. Et Jésus a fait quantité de choses. Jésus a enseigné, Jésus a parlé, mais certains souhaitent des preuves de ce qu'il avance, de ce qu'il dit. Certains ont besoin de voir. Jésus a fait à ce moment-là un certain nombre de choses extraordinaires, on pourrait dire des miracles, des événements en guise de preuve. Mais malgré cela, les personnes ont du mal à croire, ont du mal à être convaincues, ont du mal à faire confiance. Alors je vous propose de lire en Jean, on est au chapitre 4, la fin du chapitre 4, à partir du verset 43. Alors pour ceux qui ont une Bible comme moi, c'est la page 690. Regardez avec moi. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et il le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. »« Vas-y, » lui dit Jésus, « ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent « Ton enfant vit !» Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et ils lui dirent « C'était hier, à 1 heure de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit !» Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. Il crut. Pourquoi croire en Jésus, à ce que Jésus dit? Et dans ce passage, on va voir combien Dieu a conduit à la foi qui sauve un homme. C'est un petit épisode très simple. Et je vous propose de l'interroger en deux temps. Le premier temps, des preuves pour croire. Vous l'avez entendu, dans cet épisode, on parle de deux personnes principales. On a d'un côté Jésus et de l'autre côté un officier du roi, un haut fonctionnaire, un homme important. Au départ, ils ne sont pas au même endroit. Jésus est arrivé dans le village de Cana, et l'officier du roi est à Capernaum, à une distance environ de 20 à 30 kilomètres, qui sépare ces deux villages. L'auteur nous apprend, donc Jean nous apprend que Jésus, il est bien accueilli dans la région, au titre de ce qu'il avait fait. Des gens avaient vu ce qu'il avait fait et il l'accueille. Il l'accueille, vous avez vu, en raison de ce qu'il avait fait, pas de ce qu'il avait dit. Il avait dit déjà quantité de choses. Jésus est vu comme un faiseur de miracles, qui accomplit des exploits quelque part sensationnels. De l'autre côté, on a donc ce texte où on nous apprend que cet homme fonctionnaire a un fils malade, verset 46, qui est sur le point de mourir. Et en entendant parler de Jésus, cet homme décide de faire le voyage pour le trouver, pour chercher Jésus et prendre Jésus et le ramener au chevet de son fils mourant. Cet officier vient quelque part à Jésus poussé par le désespoir. Son fils est en train de mourir. Et il a entendu parler des miracles de Jésus. Il y a un espoir pour mon fils. Il a entendu des choses que Jésus était capable de faire que personne ne faisait dans la région. Jésus guérissait toutes sortes de maladies. Jésus avait changé l'eau en vin. Il a donc décidé de demander de l'aide à Jésus. Je relis le verset 47. « Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. » C'est écrit vite, c'est un petit verset. Mais cet homme a fait le déplacement, 20 à 30 kilomètres. Et ça grimpe, il y a un dénivelé entre les deux. Si vous prenez Google Maps, il y a 9 heures de marche à peu près, un dénivelé global de 700 à 1000 mètres en fonction du chemin que vous prenez. Alors faites le calcul, 4 km heure, allez 3,5, 4... Il faut au moins, 9 heures, 1 à 2 journées de marche. Il laisse son fils mourant. Ceux qui ont côtoyé dans la famille des personnes qui étaient sur la fin de vie, est-ce qu'on est prêt à se dire, est-ce que j'ai le temps de rentrer ou est-ce que je vais... C'est un choix, c'est une décision. Et pendant de longues heures de marche, il marche pour rejoindre Jésus, pour le trouver et l'inviter à faire la route avec lui pour la guérison de son fils. Il faut une sacrée foi. Il faut une sacrée démarche. Il prie à Jésus. Il supplie à Jésus, viens guérir mon fils malade. Lui, un membre de la cour, un haut officier va parler à Jésus qui était un fils de charpentier. C'est la vie de son fils qui l'intéresse. Ce n'est pas une question de sa propre vie, mais c'est la question de son fils. Il a envie de voir une guérison. Mais cette fois, si on réfléchit un peu, elle est incomplète. Parce que pour lui, Jésus doit être présent. Et il espère que Jésus est capable de le guérir avant que cet homme, cet enfant, ne meure. Si vous connaissez l'évangile de Jean, on voit que Jésus est capable de faire bien plus que ça. Et là, Jésus, que dit-il ? Pas de problème, je te suis. Je savais que tu allais me trouver. Je suis la bonne personne. Merci pour cette confiance. Viens, je t'accompagne. Tu as eu une très bonne idée de me consulter et de venir me chercher pour ton fils. Non, relisez, verset 48. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» C'est surprenant, hein ?« À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas ?» Est-ce le ton du reproche ? Il est dur un peu Jésus là, non ? Il vient de faire je ne sais pas combien d'heures de marche. Pourquoi une telle réaction ? On voit que ce n'est pas que cet homme qu'il réprimande, mais tous celles et ceux qui l'écoutent à ce moment-là. Et c'est tout le contexte qui met en lumière cette phrase. Si vous regardez les textes avant, si vous regardez les textes après, Jésus faisait certaines choses qui suscitaient un intérêt, oui. On venait l'interroger, on venait lui demander de l'aide. Mais les hommes étaient sourds au message qui était derrière, sa mission de salut. Les hommes se concentraient sur ces choses extraordinaires qu'ils n'avaient jamais vues. Et c'est vrai, si vous prenez le temps de lire Jean, par exemple, vous allez voir quantité de foules, de personnes qui ont été intéressées, qui l'ont écouté, qui l'ont regardé, mais qui n'ont pas cru, qui n'avaient aucun intérêt, au-delà de ce qu'il était en train de faire, au-delà des miracles. Et si on prend autour d'une page, on regarde le chapitre 2, hein, il a fait ce premier miracle pendant que Jésus était à Jérusalem, la fin du chapitre 2, verset 23, lors de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait, notamment les disciples, mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on les renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Jésus voyait au-delà des apparences, il voyait dans les cœurs, dans les cœurs. Oui, beaucoup croient en lui, et notamment ses disciples, mais Jésus ne se laisse pas duper. Il sait ce qu'il y a réellement dans l'homme et dans le fond de son cœur. La foi de cet homme, elle n'est pas complète, elle n'est pas totale. C'est une foi un peu superficielle, superstitieuse, on pourrait dire. Mais revenons à notre texte, verset 49. Qu'est-ce que nous fait cet homme de haut rang ? L'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Il insiste, il persiste. « Jésus, viens avec moi, mon enfant se meurt. » C'est un cri de détresse, il vide son cœur. Va-t-il se prendre un vent ? Et là, on arrive à la charnière du texte. Malgré la réprimande que Jésus vient de faire, Jésus va accéder à sa demande. Et il accomplit par grâce le miracle qu'on lui demande. Et c'est la deuxième partie, croire sur parole. Regardez le verset 50. « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » « Va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils est bien portant. » Jésus n'accepte pas de retourner avec cet homme chez lui. « Je viens pas avec toi. » Mais il accorde la requête, « Tu peux rentrer chez toi. » C'est fait, ton fils est guéri, à l'instant. Vous vous mettez dans la peau de cet homme ? Quoi ? Rentrer sans Jésus ? Toute cette route pour cette phrase « Va, ton fils est guéri » qui en soit toute banale, sans aucune contrepartie. Jésus, tu ne me demandes rien en retour ? C'est surprenant. Est-ce immérité ? Est-ce que Jésus m'a dit pour se débarrasser de moi ? Relisez la réaction. C'est la deuxième partie du verset 50. « Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et s'en alla. » Waouh ! Extraordinaire. Ça, c'est croire sur parole. Il a cru Jésus sur parole. Je me suis dit, est-ce que moi, j'aurais cru comme ça ? Toute cette route, je me retrouve devant Jésus, je le supplie de venir avec moi, je veux qu'il soit avec moi, je veux que Jésus prie pour mon fils. Et Jésus, simplement, pourrait presque dire d'un revers de la main, « Retourne chez toi, ton fils vit. » L'officier, à ce moment-là, n'a aucun moyen de vérifier cette affirmation. L'homme se contente donc de la parole de Jésus et s'en va. Il démontre qu'il ne s'intéresse qu'à cet acte de foi. Il a une confiance qui commence à s'installer. Jésus ne va pas venir, Jésus ne va pas toucher mon fils. Et il rentre chez lui sans hésitation. Vous imaginez son retour, ça prend le même temps qu'à l'aller. Ça prend du temps. Le texte ne nous dit rien. Est-ce que ça a cogité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles ont été ses questions ? Qu'est-ce qu'il a repassé dans son cœur ? L'échange qu'il a eu avec Jésus ? Pas d'SMS pour prendre des nouvelles. Chérie, t'as des nouvelles de mon fils ? Il n'est pas en direct. Pas de mail, pas de coup de fil à un ami pour savoir si. Il n'a pas le choix, il faut prendre la route. Quelques heures. Et le texte nous dit que ce n'est que le lendemain où des serviteurs viennent à sa rencontre sur la route. Vous imaginez ? Serviteur, vous voyez, oh là, je reconnais cet homme. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Ça fait quelques jours que je suis parti. Mon fils, il vit ? Il vit pas ? Et les serviteurs lui annoncent une bonne nouvelle, ton enfant vit. Waouh ! La maladie n'est plus. Regardez la suite, verset 52, il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et ils lui dirent, c'était hier, à 1 heure de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Le moment précis de la guérison de son fils, à 1 heure de l'après-midi, ne fait que renforcer la foi de cet homme. Jésus l'a guéri à l'instant où il a prononcé ces mots. Et au moment où cet homme reçoit cette foi, on voit qu'il y a une autre, enfin cette nouvelle, pardon, on voit qu'il a une autre foi, une autre confiance qui vient de germer dans le cœur de cet homme. Et il ne peut pas se taire, il la partage. Lui et sa famille, le texte nous dit, ils ont cru. Leur vie a été changée. Cette rencontre, cette confiance en Jésus a tout changé. Cet homme est passé d'une espèce d'attente, d'un miracle, d'une incrédulité à une foi authentique qui sauve, parce que les termes, il a cru. Il est question d'une foi qui sauve, une foi à salut. Être chrétien, c'est placer sa foi en Jésus, dans ses paroles. Et les évangiles présentent plein de caractéristiques de ce que Jésus a dit. Quel témoignage de foi de cet homme. Jésus a fait à distance un signe miraculeux. Jésus n'a pas eu besoin de voir le garçon. Jésus n'a pas eu besoin de le toucher. Jésus n'a pas eu besoin de faire la route avec cet homme. Jésus a simplement parlé. Il est le seul à pouvoir faire cela, parce qu'il est le Fils de Dieu. Et ces miracles, ces signes, ce qu'il a dit sont des panneaux indicateurs qui pointent vers Jésus. Et à la fin de l'évangile de Jean, Jean va dire ceci: Jésus a accompli, on est au verset 30 du chapitre 20, Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre de Jean. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il est question de vie. Le petit garçon, il a eu la vie sous une démarche de foi d'un homme, une foi qui était bien mal placée, mais que Dieu a pu corriger. Une petite foi, mais une foi qui est devenue une foi extraordinaire. Il s'est mis en route. La question est, est-ce qu'on place notre confiance en Jésus? Est-ce qu'on place notre confiance dans ses paroles, dans ce qu'il a dit de lui? Je voudrais nous laisser quelques questions pour réfléchir individuellement. À quelle occasion on sollicite l'aide de Jésus? L'aide de Dieu? Quand ça ne va plus? Uniquement quand tu es dans l'impasse? Une autre question, est-ce qu'on sait réellement ce que Jésus a dit? Ou on suppose qu'il a dit, parce que voilà, dans la culture ambiante post-chrétienne de notre pays, voilà, on a des notions sur ce qu'est le christianisme. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que lui, il a dit, il a fait? Après, une autre question pourrait être, mais est-ce qu'on a envie d'écouter ce qu'il a dit? Est-ce qu'on lui fait confiance? Caro et Léa ont exprimé cette confiance à un moment donné. Ils ont dit, je dois croire, je dois lâcher prise, je dois lui faire confiance. Une autre question, mais c'est quoi les raisons? Quelles sont les raisons? Est-ce que vous avez pris déjà le temps, les raisons pour ne pas croire ce que Dieu a dit de lui, ce que Jésus a dit de lui? Mais peut-être vous êtes de ceux qui marchaient avec le Seigneur, qui êtes chrétien, mais comment Jésus met-il à l'épreuve les fondements de ta foi? As-tu besoin de preuves pour bâtir ta vie avec le Seigneur, ou est-ce que tu as confiance dans ses paroles? Et je voudrais simplement terminer par quelques paroles qu'on trouve dans Jean, dans l'évangile de Jean, et je vous encourage à le lire si vous ne l'avez pas encore fait. Des paroles que Jésus a dites, qui sont fortes. Jean 3, par exemple: Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Jean 5, qui parle de la parole: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans Jean 11, Jésus dit: C'est moi qui suis la résurrection et la vie. C'est ce qu'on vient d'exprimer par le baptême. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Waouh, quelle interpellation de Jésus! En Jean 12, Jésus dira: Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous ne donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Si vous demeurez, Jean 15, en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelle parole précieuse! Et je pourrais continuer. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Tiens, on a entendu ça tout à l'heure. Qui frappe à mon cœur. La foi qui sauve, la foi qui fait confiance, la foi que présente la Bible, c'est cette grâce de pouvoir saisir les paroles que Jésus a dites, qui sont des paroles de vie. Alors si vous êtes là parce qu'on vous a invité et que vous peut-être vous posez des questions sur la foi, sur la confiance que Léa et Caro ont exprimée en Jésus, bah, je vous encourage à poursuivre la route avec l'évangile de Jean. Faites-vous un avis. Écoutez ce qu'il a dit. Peut-être demandez à un ami de lire avec vous. Ne passez pas à côté d'une rencontre. Et je pense que Caro et Léa seraient d'accord de le dire. Ne passez pas à côté d'une rencontre avec lui, de se dire, mais qu'est-ce que Jésus veut me dire? Est-ce que je suis prêt à écouter ce qu'il nous a dit? Voilà ce que je voulais simplement partager avec vous. Et je voudrais qu'on puisse prendre quelques minutes de silence et qu'on puisse réfléchir. Si j'avais été dans la circonstance de cet homme, est-ce que j'aurais cru? Déjà pour aller chercher de l'aide, est-ce que j'aurais cru se dire Jésus, ce qu'il a dit, c'est vrai, j'y vais, je retourne, ou est-ce qu'on n'aurait rien fait?